Vous écoutez On lit pour vous.
Enfin, la littérature autochtone jeunesse à l'école. Un texte de communication jeunesse paru le 1er juin 2026 dans le carnet Je lis autochtone. Dès la rentrée scolaire 2027-2028, la présentation d'œuvres écrites par des auteurs-autrices autochtones deviendra obligatoire au primaire et au secondaire dans le programme de français du Québec. Pour soutenir les médiateurs-médiatrices de la lecture, Communication Jeunesse vous propose dans cet article les conseils concrets et les stratégies éprouvées dans la classe de l'enseignante Marie Germain qui y partage son expérience. Pourquoi est-il important, selon vous, d'intégrer la littérature autochtone en classe aujourd'hui? Quand on fait partie d'une même famille et qu'on veut se réconcilier car on a fait du tort à l'autre, c'est la moindre des choses que de faire des excuses et d'apprendre à connaître l'autre. Apprendre à connaître une personne ouvre la communication et permet d'apprécier son unicité. J'accorde cette place à la littérature autochtone dans ma classe. Quels critères guident votre choix d'œuvre et comment évitez-vous les stéréotypes? Bien entendu, je m'assure de prendre des ouvrages qui sont à la hauteur de ce que mes élèves sont capables de prendre. Si les contenus sont plus sensibles, on en parle avant, toujours. Quel conseil donneriez-vous à une personne qui souhaite commencer mais ne se sent pas totalement outillée? Je crois qu'une des lacunes des enseignants-enseignantes, c'est qu'elles ne lisent pas assez. Ce n'est pas moi qui le dis. Donc, lire est une bonne première habitude à prendre. Tous les livres que je mets dans les mains de mes élèves, je les ai lus. C'est d'une importance capitale pour moi. Je sais alors que nos conversations littéraires seront riches et profondes. Le deuxième conseil, apprendre à connaître les peuples autochtones. Lire et visionner des œuvres autochtones, aller dans les communautés, goûter et sentir des mets aux saveurs autochtones. Connaître pour vrai. Et ça, ce n'est pas seulement lors de la journée du chandail orange. Deux suggestions de communication jeunesse. 1. Tête pleine de feuilles de Jocelyn Sioui, collection Sentier de portage, édition Anne Norac, dès 9 ans. Tête pleine de feuilles, c'est une légende qui précède celle de la femme tombée du ciel, le mythe fondateur de la création du monde chez les Wendat. C'est l'histoire d'un bâton de paix ou d'un bâton de guerre qui a fait plusieurs fois le tour de la terre avant de devenir arbre. Comment un bâton aussi mystérieux et légendaire a-t-il fini par atterrir à Montréal, au parc Nicolas Viel? 2. Un roi sans couronne. Douachtekun Collection. Unique. Héritage jeunesse dès 12 ans. Douachtekun, un jeune Innu, se décrit au début du récit comme le roi de son royaume. La communauté autochtone dans laquelle il règne symboliquement depuis la galerie de Kukum. Entouré de ses cousins, il observe et juge le monde qui l'entoure, marquant une appartenance forte et affective à son territoire. Mais tout bascule lorsque sa mère décide de quitter la communauté pour la ville. Commence alors une lente dérive identitaire. La perte de contact avec les cousins, le changement physique, la transformation du lien avec les repères culturels. Ouachtekun doute de son identité dans sa communauté. Est-il encore Innu? C'était, enfin, la littérature autochtone jeunesse à l'école. Un texte de communication jeunesse paru le 1er juin 2026 dans le carnet « Je lis autochtone ».
Nathan Obed revient sur l'héritage de la gouverneure générale Mary Simon. Un texte de la presse canadienne paru le 7 juin 2026 dans Espace autochtone sur Radio-Canada Info. Le président de l'Inuit Tapirit Kanatami, ITK, Nathan Obed, est fier de la manière dont la gouverneure générale Mary Simon a mis à profit son mandat pour rechercher un équilibre entre ces deux identités, celle de femme Inuk et celle de représentante de la couronne au Canada. L'autodétermination signifie également que l'on peut décider de jouer ou non un rôle au sein de ce pays. Et je pense que Mary a su trouver un équilibre entre son identité autochtone et sa fonction officielle de chef de l'État au nom du roi pour le Canada, a-t-il souligné. Tout au long de son mandat de gouverneur général, elle a conservé cette attitude terre-à-terre dans sa manière d'interagir avec les gens et de prendre soin d'eux, a-t-il ajouté. Madame Simon, qui s'est battue pendant des années pour la réconciliation du Canada avec les peuples autochtones, arrive au terme de son mandat, après avoir servi à la fois la reine Élisabeth et son fils, le roi Charles. Louise Arbour, ancienne juge de la Cour suprême et haute commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, devrait la remplacer lundi. Monsieur Obed a expliqué qu'il voyait Madame Simon comme une sorte de grand-mère du pays, car elle aime les enfants et adore les voir réussir. Elle a également le don de mettre à l'aise en sa présence des personnes d'horizons très divers. Cela m'a amené à voir le rôle de gouverneur général d'un œil un peu différent et plus positif, a-t-il indiqué. Madame Simon était particulièrement bien placée pour comprendre à la fois les limites et les pouvoirs de cette fonction, estime M. Obed, et les peuples autochtones, en particulier les Inuits, la considérait avec une certaine révérence. M. Obed a observé et accompagné Mme Simon alors qu'elle se battait pour les droits des Inuits et des Autochtones pendant des décennies. Elle a représenté la population du Nunavik lors des négociations qui ont conduit au rapatriement de la Constitution en 1982. M. Obed a déclaré que le leadership de Mme Simon avait joué un rôle déterminant dans les pourparlers qui ont abouti à l'inclusion de l'article 35 dans la Constitution, lequel affirme les droits des peuples autochtones au Canada. Il a ajouté que Mme Simon n'avait jamais oublié d'où elle venait et que les Autochtones la considéraient comme un symbole de réussite. Et donc, le fait que cette réussite se concrétise, qu'elle soit reconnue par le Premier ministre et qu'on lui confie ce rôle, je pense que cela a vraiment démontré jusqu'à quel point il est puissant de servir sa communauté et son peuple, a analysé M. Obed. Ce lien avec la communauté s'est manifesté de manière frappante à Rideau Hall tout au long du mandat de Mme Simon. Des peaux de phoque recouvraient les tables et des œuvres d'art inuites ornaient les murs. Les menus des réceptions officielles qu'elle organisait proposaient souvent à la fois une cuisine gastronomique traditionnelle et des plats issus de la cuisine autochtone, ce qui a permis de faire découvrir la nature du Canada à ses invités internationaux. Ces rappels de ses origines ont contribué à faire de Rideau Hall un lieu plus accueillant pour tous, selon M. Obed. Des critiques difficiles, selon M. Obed. Le passage de Mme Simon à Rideau Hall n'a pas été sans heurts. Elle a été confrontée très tôt à des critiques persistantes concernant son incapacité à parler couramment le français, ainsi qu'à un déluge de commentaires qu'elle a qualifiés à la fois de racistes et de sexistes. M. Obed a souligné que ses détracteurs dans les médias et la vie publique avaient fait preuve d'une attitude trop cavalière à l'égard de ses prétendues lacunes tout au long de son mandat. Elle est bilingue. Si vous connaissez un tant soit peu Mary Simon, c'est la première chose que vous savez, a-t-il déclaré, soulignant qu'elle parle couramment l'Inuktitut. La deuxième chose, c'est que je suppose qu'elle n'a pas été suffisamment colonisée pour avoir appris le français dans son éducation. Ellipse. Mary Simon a grandi dans un contexte où le gouvernement du Québec ne voulait rien avoir à faire avec elle, Donc, le fait qu'elle continue de servir les Canadiens et d'être fière d'être canadienne est assez remarquable, a-t-il avancé. Malgré les critiques, Mme Simon est quelqu'un qui regarde toujours vers l'avenir, juge M. Obed. Elle ne s'attarde pas sur les conflits du moment, ni même sur les querelles politiques entre individus. Elle se concentre davantage sur la question « Que pouvons-nous accomplir à l'heure actuelle ?» a-t-il affirmé. M. Obed est impatient de voir ce que Mme Simon va faire ensuite. Il a ajouté qu'il espérait qu'elle aiderait l'ITQ à faire avancer la création de l'Université Inuit Nunangat, une institution que Mme Simon a défendue en tant que présidente de l'ITQ. Une fois que l'université ouvrira ses portes en 2030, les étudiants Inuits pourront obtenir des diplômes d'études supérieures dans leur région d'origine pour la toute première fois. Il espère également qu'elle prendrait le temps de se détendre après ses dernières années bien remplies. C'était Nathan Obed, revient sur l'héritage de la gouverneure générale Mary Simon, un texte de la presse canadienne paru le 7 juin 2026 dans Espace autochtone sur Radio-Canada Info.
$3,5 millions investis dans le parc agroalimentaire de Normandin. Un texte de Guillaume Roy paru le 14 mai 2026 dans le Quotidien. Après plusieurs années de travail, la Régie intermunicipale du parc industriel lance les travaux d'infrastructure qui permettront d'accueillir 20 nouveaux projets et de consolider celui déjà en place, soit la congélerie Héritier. Après 4 ans de travail, d'abord comme maire de Normandin, puis comme préfet, ça fait du bien d'annoncer la première pelletée de terre, souligne Jean Morancy, le préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine, en soulignant que le travail de mobilisation et de concertation a porté fruit. Les travaux visent à développer 20 terrains pour des projets agroalimentaires et agro-industriels. Le projet amenait certaines particularités techniques, notamment en ce qui a trait à l'alimentation en eau potable et au traitement des eaux usées, note le préfet, précisant qu'une station de pompage et un bassin de traitement font partie du projet. Normandin est reconnu comme un pôle agroalimentaire et on investit pour favoriser son développement, note Jean Morancy. La MRC souhaite ainsi se démarquer en offrant un environnement d'affaires attractif pour la transformation alimentaire. Pour Jean Morancy, cette approche est d'autant plus intéressante qu'elle repose sur un levier collectif innovant. Au lieu de laisser le développement économique à chacune des municipalités, les élus de la MRC Maria-Chapdelaine ont plutôt décidé de se regrouper. La municipalité cède ses revenus de taxation à la Régie pour en faire un levier collectif, explique le préfet. Tous ensemble, on peut investir davantage et développer ensemble les forces du territoire. La RIPI, qui appartient aux 12 municipalités de la MRC, peut ainsi autofinancer des projets récoltant les taxes sur son parc industriel. C'est parfois plus long de faire des projets tous ensemble, mais on est plus fort et on va plus loin, image Jean Morancy, ajoutant que l'idée de la Régie est née du rêve d'attirer une aluminerie dans le nord du lac Saint-Jean. Les démarches pour attirer des entreprises sont menées par la conseillère stratégique industrielle de la MRC, Virginie Saint-Pierre. Cette dernière mettra notamment en valeur la stratégie santé nordique de la MRC, qui est mise sur la transformation locale et la création de valeur ajoutée à partir des ressources du territoire. Les activités de prospection viseront, notamment, des incubateurs agroalimentaires et centres de recherche culinaire, des biscuiteries industrielles et des usines de transformation alimentaire, des usines d'embouteillage et d'emballage, des fabricants d'équipements spécialisés en agroalimentaire et des laboratoires d'analyse pour le contrôle de la qualité et de la sécurité alimentaire. Un des objectifs du parc industriel est de créer un écosystème d'affaires favorisant les synergies, les collaborations entre les entreprises et l'innovation. La fin des travaux est prévue en septembre et les terrains devraient être prêts à recevoir des entreprises dès l'automne. Pour la MRC, cette étape de consolidation économique deviendra un outil de développement à long terme pour le territoire. C'était 3,5 millions de dollars investis dans le parc agroalimentaire de Normandin. Un texte de Guillaume Roy paru le 14 mai 2026 dans le Quotidien.
Un soutien plus humain réclamé pour les épileptiques. Un texte de Florence Morin-Martel paru le 9 juin 2026 dans Le Devoir. En 2023, Antoine Lavoie s'est enlevé la vie à 17 ans, plus de 3 ans après avoir commencé à souffrir d'épilepsie. Aujourd'hui, sa mère réclame que chaque Québécois obtenant nouvellement un diagnostic de cette maladie soit orienté vers des ressources de soutien, une recommandation formulée par le bureau du coroner à la suite du décès de l'adolescent. Antoine aurait eu 21 ans le 5 mai dernier. L'épilepsie lui a pris sa vie, confie sa mère, Josée Deslongchamps, la voix nouée par l'émotion. L'adolescent, qu'elle surnommait son « petit clown », aimait les tracteurs et travaillait à la ferme familiale de Macamic en Abitibi-Ouest, relate la femme de 44 ans. La vie du jeune homme a toutefois basculé quand il avait 14 ans avec une première crise d'épilepsie, puis plusieurs autres ensuite. Malgré de nombreux traitements et un suivi neurologique, la maladie résiste. Le diagnostic tombe. Épilepsie réfractaire aux médicaments. Dès lors, Antoine accumule les deuils. Il ne peut pas obtenir un permis de conduire et se retrouve ainsi limité dans ses déplacements, note la coroner Maître Julie Kim Godin dans son rapport. Ses perspectives d'emploi en foresterie sont aussi réduites. Plusieurs postes exigent du travail de nuit, ce qui est incompatible avec sa maladie. Selon sa mère, les différents médicaments qu'il essaie lui causent d'importants effets secondaires. En juillet 2022, il reçoit même un stimulateur dans l'espoir de réduire les crises dont il souffre, mais les résultats déçoivent. « On a tout essayé », raconte Mme Deslongchamps. À la fin janvier 2023, après une journée passée sur les terres familiales, Antoine envoie un message d'amour à ses proches. Il s'enlève la vie peu après. Il avait pourtant plusieurs projets en tête, dont un programme de formation et un départ prochain en résidence étudiante, souligne sa mère en réprimant un sanglot. Ça s'est passé tellement vite. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. L'aspect psychosocial. Dans son rapport, la coroner Julie Kim Godin met en lumière une lacune de l'accompagnement offert aux personnes atteintes d'épilepsie, le soutien psychosocial. Peu de ressources ont été mises en place pour aider Antoine à composer avec son diagnostic, alors qu'énormément d'énergie a été déployée au traitement de sa condition physique, constate-t-elle ainsi dans le document. Pourtant, le risque de suicide chez les gens atteints d'épilepsie est de 3,4 à 5,8 fois plus élevé que dans le reste de la population, indique le Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine sur son site. Les idées suicidaires et les troubles de l'humeur sont également plus fréquents chez les épileptiques, précise-t-on. Il n'y a personne qui m'a dit ça. Personne. Comment ça se fait? Si mon fils et moi avions été au courant, je pense que ça aurait été bien différent, dit Josée Deslongchamps d'une voix ferme. Antoine avait manifesté des idées suicidaires au début de sa maladie.
Il avait été évalué par sa neurologue qui avait noté qu'il n'avait plus d'idée de mort et qu'il se sentait mieux lorsqu'il était occupé. Et puisqu'il semblait peu intéressé par les services en santé mentale, il n'a pas consulté en psychiatrie ou en psychothérapie, note la coroner Julie Kim Godin dans son rapport. Selon sa mère, Antoine n'avait pas non plus exprimé d'idées suicidaires depuis cet épisode. Favoriser un encadrement humain. Aux yeux de la coroner, un suivi traditionnel auprès d'un psychiatre ou une psychothérapie individuelle ne sont pas toujours des solutions adaptées à tous les types de personnes. Dans son rapport, elle plaide donc en faveur d'une plus grande reconnaissance des organismes et groupes de soutien spécialisés en épilepsie qui sont capables d'offrir un accompagnement dans un cadre humain. Ils offrent un appui précieux aux équipes traitantes. Dans le cadre de son examen, Maître Godin a également constaté qu'il y avait peu souvent de lien direct entre les médecins qui annoncent le diagnostic d'épilepsie et les organismes d'aide. Le patient doit faire lui-même les démarches pour trouver ses ressources, explique-t-elle en entrevue avec Le Devoir. Il faut faciliter la prise en charge. Dans son rapport, la coroner recommande ainsi à Santé Québec de s'assurer que chaque personne vivant avec l'épilepsie et son entourage soit orientée vers un organisme communautaire ou un groupe de soutien en épilepsie dès l'annonce du diagnostic. Le début de la maladie est crucial. Il faut offrir du soutien dès ce moment, avant que le moral ne se dégrade, soutient la mère d'Antoine. Plaidoyer pour un accès équitable. Au moment du diagnostic d'Antoine, aucun groupe de soutien formel n'existait toutefois en Abitibi-Témiscamingue, souligne la coroner. À l'heure actuelle, il existe seulement environ 7 organismes communautaires spécialisés en épilepsie au Québec, fait remarquer Annie Roy, directrice générale d'Épilepsie Montérégie, et on couvre de grands territoires. Certains neurologues travaillent au sein d'équipes avec des psychologues ou des infirmières pivots qui peuvent orienter les patients vers des ressources, souligne de son côté Dr. Guillaume Lafortune, président de l'Association des neurologues du Québec. Mais c'est loin d'être la réalité partout. Maître Julie Kim Godin recommande donc à Santé Québec de s'allier avec le milieu communautaire pour mettre en place, de manière équitable à travers le Québec, un accompagnement des personnes vivant avec l'épilepsie et de leurs proches. Des pistes à l'étude. Appelé à réagir, Santé Québec rappelle que les établissements de santé ont l'obligation de dépister le risque suicidaire et d'assurer une prise en charge appropriée. La société d'État se dit aussi consciente des défis liés à l'accès au soutien pour les personnes vivant avec l'épilepsie. Bien que certaines ressources existent à l'échelle provinciale, elle affirme réfléchir à des moyens d'améliorer l'accompagnement. Parmi les pistes envisagées figure une meilleure coordination entre le réseau de la santé et les organismes communautaires afin de faciliter l'orientation des patients vers des services spécialisés. Lorsqu'Antoine a reçu son diagnostic, on était seul au monde, dit sa mère. Si on avait pu parler à un organisme, je suis persuadée que ça aurait changé quelque chose. C'était un soutien plus humain réclamé pour les épileptiques. Un texte de Florence Morin-Martel paru le 9 juin 2026 dans Le Devoir.
La première mosquée de l'ouest de Terre-Neuve s'installe dans une ancienne église. Un texte de Patrick Butler, paru le 27 mai 2026 sur Radio-Canada Info. Les musulmans de Corner Brook fêtent l'Aïd El-Adha dans leur nouvelle mosquée, la première dans l'ouest de Terre-Neuve, qui a été établie dans une ancienne église de l'Armée du Salut. Une centaine de fidèles se sont rassemblés, mercredi matin, dans l'ancien sanctuaire de l'église, où les bancs ont cédé leur place à des tapis orientés vers la Mecque plutôt que l'autel. Quand j'ai déménagé ici, nous étions quelques personnes à prier dans la salle de prière de l'hôpital. Nous étions un très petit groupe, loin de chez nous, loin de notre culture. Alors ça a été très difficile, raconte Mohamed Al-Maïdani. Nous étions moins de 20 familles à l'époque. Aujourd'hui, nous sommes 400 membres de la communauté musulmane, se réjouit celui qui a quitté la Syrie en 2016 et qui a prié à côté de son fils de 14 ans, au Waïs. C'est un moment très important pour la communauté, explique l'imam adjoint Mahmoud Monjour. Le sourire aux lèvres après une photo de groupe avec quelques dizaines de membres de la mosquée Sabahel. Les gens ont lutté pendant longtemps pour obtenir ce lieu de culte. Le déclin de la population chrétienne de la région a entraîné la vente de l'une des églises locales de l'Armée du Salut en septembre dernier. Lorsque l'édifice a été mis aux enchères, environ 400 000 $ ont été amassés par les musulmans de l'ouest de l'île qui ont notamment reçu de l'aide du Sabahel Muslim Youth and Community Center à Halifax. Cet espace avait été utilisé pour rendre grâce à Dieu et il continue de l'être, souligne l'imam originaire du Bangladesh, selon qui la croissance de la population s'explique par l'immigration et les nombreux musulmans qui travaillent dans le secteur de la santé. Nous prions tous au même Dieu. Abu Amar Maïmoum, un autre fidèle bangladais croisé dans le stationnement de la nouvelle mosquée, estime que sa culture et sa religion demeurent méconnues à Terre-Neuve et Labrador, où les musulmans représentaient 0,8 % de la population en 2021. Mais Ilyas Musé Hussein, un infirmier qui a grandi en Somalie et qui a déménagé à Corner Brook en 2022, indique qu'il se sent comme si les musulmans sont enracinés dans la région depuis l'établissement de la mosquée. « Nous avons notre place ici », affirme-t-il. « On est extrêmement fiers d'avoir cette mosquée. » « C'est bien que la communauté grandit », souligne pour sa part Latifa Rahim, une nouvelle-née dans les bras sous les cris d'un groupe d'enfants. « Le plus de gens qu'il y a, le plus d'activités et d'espaces auxquels on a accès. » C'était la première mosquée de l'ouest de Terre-Neuve s'installe dans une ancienne église. Un texte de Patrick Butler paru le 27 mai 2026 sur Radio-Canada Info.